Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte. Nous nous rassemblons en présence ou à distance pour nous ouvrir à la présence de Dieu, pour nous mettre à l'écoute de sa parole et pour lui rendre grâce à lui, le Dieu de tous, de toutes et de tout. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle, l'évangile du Christ. C'est que la grâce et la paix nous sont données, sans condition, par Dieu notre Père. Je vous invite à prier. Nous voici rassemblés devant toi, éternel notre Dieu, recueillis pour l'écoute de ta parole de vie. Et prêt à puiser au plus profond de nos cœurs la paix et la joie, l'élan et le courage. Car par ton esprit, tu les renouvelles en nous, pour nous, toujours, toi qui es à la source de toute vie. Amen. Nous nous levons pour le premier spontané. Restons debout pour le temps de la louange. Éternel, nous te célébrons pour ton souffle, énergie vivifiante qui inspire au cœur de toute personne le goût du vrai, la passion de la justice, l'attrait de la bonté. Il a suscité au cours des temps et suscite toujours des prophètes pour contrer la loi du plus fort, pour dénoncer les exactions, pour appeler à un retournement personnel et social. Il incite de génération en génération des êtres et des groupes à se réapproprier l'héritage reçu pour ouvrir à leurs contemporains des chemins d'avenir. Il permet à chaque humain, au cours de son histoire, de franchir des étapes inconnues, de s'aventurer sur des terres incertaines, de traverser des nuits, de traverser des épreuves, de devenir ami pour autrui. Que notre célébration pour ton souffle qui nous inspire soit de lui être disponible en toute notre existence. Loué sois-tu, Dieu de vie. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange avec le chant du psaume 89, les trois premières strophes du psaume 89, « Je louerai ton amour et ta fidélité ».
Thank you.
prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces paroles du livre des Actes, lorsque Pierre prit la parole et dit « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. Notre Dieu, nous nous présentons devant toi, reconnaissant de ta présence et conscient de nos manquements à l'égard des autres, de toi et de nous-mêmes. Notre Père, il y a en nous des raideurs par lesquelles nous nous heurtons aux autres, des recoins obscurs où gonflent des peurs, des fractures où nous perdons gratitude et bienveillance, des cicatrices douloureuses d'où coule encore l'amertume. Alors nous nous tournons vers toi, car il est vrai qu'avec toi nous respirons mieux. Nous retrouvons notre souffle, notre santé intérieure, la paix, la vie de notre vie. Nous t'en prions, renouvelle en nous le souffle de l'existence et la grâce de ton amour qui libère des peurs et ajuste les relations. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de l'Éternel. Sur la tristesse de nos erreurs, Dieu fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur les blessures de notre cœur, Dieu fait lever la douceur de sa bonté. Sur le vide et l'engourdissement de notre âme, la joie de la vie retrouvée. Toujours, notre Dieu nous réveille, nous relève et nous ressuscite. Alléluia. Et nous chantons notre reconnaissance au cantique 256. Célébrons Dieu notre Père. Asseyez-vous. Nous lirons aujourd'hui un des textes proposés à la méditation des églises pour ce jour, mais avant de le lire, nous prions. Ô notre Dieu, sans ta parole, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Ô notre Dieu, par ton esprit, fais-nous entendre ta parole au travers des Écritures, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Nous lirons donc dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 52. Ses parents, de Jésus, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Comme le temps passe vite, n'est-ce pas ? Nous voici au dernier dimanche de l'année 2024. Il y a 4 jours, nous avons célébré Noël et la venue au monde de Jésus, et aujourd'hui, il a déjà 12 ans. Mais comme les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus, cela n'est pas très gênant. Nous pouvons seulement remarquer que Luc est le seul des 4 évangélistes à mettre en scène Jésus entre sa naissance et le début de son ministère. Et ce n'est certes pas que Luc aurait bénéficié d'une source d'information inconnue des 3 autres. En tant que témoignage de foi et passeur de théologie et de christologie, les évangiles ne s'intéressent pas du tout à la biographie de Jésus avec des détails. Car ce n'est pas cela qui aiderait à mieux connaître le Christ, à mieux comprendre ce qu'il est venu apporter, lui, le Christ de Dieu. À vrai dire, nous ne savons pas grand-chose de la biographie de Jésus. Nous ne savons même quasiment rien. Et rien n'est écrit du domaine privé ou intime le concernant, ce qui peut sembler curieux ou frustrant à notre époque fascinée par l'exposition, le dévoilement, la transparence, la mise en scène de soi comme assurance d'existence. Il faut aller du côté d'autres évangiles, ce que l'on appelle apocryphes, parce qu'ils n'ont pas été retenus pour faire partie du Nouveau Testament, pour lire des histoires sur l'enfance de Jésus. Mais des histoires, vraiment. Des histoires remplies d'éléments merveilleux, propres à marquer les esprits, mais peu propices à nourrir la foi. Par exemple, nous lisons dans ces évangiles apocryphes que Jésus façonnait des petits oiseaux d'argile et puis leur donnait vie et les faisait vivre, s'envoler. Et cela, c'est assez mignon pour dire qu'il est créateur. Mais il y a aussi des histoires plus dramatiques, plus terribles. Par exemple, bousculé par un enfant, Jésus le dessèche sur le champ. Ou encore, lorsqu'un maître d'enseignement lève la main sur lui parce qu'il n'a pas répondu à la question, eh bien cette main se dessèche aussitôt. Ce qui fait dire à Joseph qu'il vaut mieux garder cet enfant à la maison parce que ceux qui le contrarient sont en danger. Vous comprenez qu'il n'y a là que mise en scène d'une projection de toute puissance qui vire forcément au pire. Mais ce qui est mis en avant dans les quatre évangiles, c'est Jésus-Christ toujours en relation. Il est toujours considéré du point de vue d'une relation à Dieu et à des personnes. Alors, une question traverse chaque évangile d'un bout à l'autre. Qui est-il donc, celui-ci qui est toujours en relation ? Ou pour le dire autrement, par où passe la connaissance, la reconnaissance de Jésus comme Christ? Et l'autre face de cette question est de comprendre les conséquences de cette reconnaissance de Jésus comme Christ dans la vie du croyant ou de la croyante, c'est-à-dire celui ou celle qui l'a reconnu comme Christ. Et cette double question est portée par ce récit particulier de l'évangile de Luc. En ce sens, le récit ouvre à son propre dépassement, le dépassement de ce qui est écrit vers son interprétation. Et dans le récit, ce dépassement, ce débordement du récit s'opère dans trois directions particulières. Un débordement d'identité, un débordement de tradition et un débordement des Écritures. Je vous invite à passer les trois débordements. Et voyons d'abord ce qui concerne l'identité, et premièrement celle de Jésus. Donc le jeune Jésus est resté à Jérusalem après les célébrations de la Pâque. Il n'a pas suivi ses parents quand ceux-ci ont repris la route vers Nazareth, et il a fallu à ses parents 3 jours de recherche avant de le retrouver dans le temple. L'apostrophe de sa mère exprime non seulement toute l'inquiétude des parents, mais aussi le reproche d'un certain manque de reconnaissance, enfin de considération, à leur égard de la part de Jésus. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Mais la réponse de Jésus coupe court au reproche parental. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » De qui est-il donc le fils ? Ou plus précisément, quelle est la filiation originaire de Jésus, celle qui le fonde et qui le constitue ? Poser la question de l'origine, c'est toujours poser celle de l'identité. Et la réponse de Jésus à sa mère pose clairement que l'origine essentielle de sa personne, de son être, pour lui, ce n'est pas Marie et Joseph. Elle est en Dieu, qu'il désigne comme son père. Et c'est une autre identité que celle à laquelle sa mère s'est référée, son identité d'enfant de ses parents, dans laquelle elle le circonscrit. « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» C'est une autre identité que celle que nous pouvons exposer lorsque nous présentons notre carte d'identité ou lorsque nous répondons à des questions comme « D'où viens-tu ? Où es-tu né ? Quel est ton métier ? Quelle est ton année de naissance ?» ou autres questions. Jésus ne renie pas du tout ses parents Joseph et Marie. D'ailleurs, il repart avec eux à Nazareth et il leur est soumis. Mais il pose clairement que ce qui le tient, ce qui l'assure, ce qui le rend présent dans le monde, ce qui le vivifie, vient de Dieu. Celui qu'il désigne comme son Père. La relation de foi de Jésus, sa relation spirituelle avec Dieu, dépasse, déborde les relations familiales. Elle ne les supprime pas, elle ne les dévalorise pas. Il se peut même que ces relations familiales permettent la relation à Dieu. Ce sont bien les parents de Jésus qui l'ont amené à Jérusalem pour la Pâque. Mais ce qui oriente Jésus, ce qui est plus important pour son existence, c'est sa relation au Père qui est dans les cieux, comme l'écrit un autre évangéliste, Matthieu. Et c'est bien pourquoi la réponse de Jésus à sa mère éclaire aussi notre propre identité. Lorsque nous prions, comme nous allons le faire tout à l'heure, notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons que notre existence s'origine en lui, non pas notre vie biologique ni les données qui nous caractérisent, mais notre existence d'humain dans la foi devant Dieu, ce qui englobe notre existence entière de chaque jour. Nous reconnaissons en priant notre Père une relation de proximité intense, extrême, avec ce Dieu Père, créateur et structurant par sa parole, qui nous adopte par son amour sans condition et nous reconnaît dans sa grâce inconditionnelle. Et nous affirmons dans le même temps que nous sommes reliés à des frères et sœurs que nous considérons comme des frères et des sœurs indépendamment de leur famille, de leur âge, de leur origine ethnique ou sociale, de leur profession, de tout ce qui fait les identités dans le monde. Tout cela est second par rapport à la fraternité instaurée par la reconnaissance du Dieu Père. Notre identité véritable, celle qui dit qui nous sommes en vérité, n'est pas écrite sur nos cartes d'identité, ni dans ce que nous donnons à connaître de nous-mêmes, ni dans ce que les autres connaissent de nous-mêmes. Notre identité véritable et inaltérable est inscrite en Dieu, par le Christ qui le fait reconnaître comme origine et sens, ce que signifie sa désignation comme Père. Nos identités mondaines sont ainsi débordées, transcendées, quelle que soit la culture, la langue, l'accent, la situation, la famille et son histoire, car Dieu n'est pas partial. Il n'y a en lui ni favoritisme, ni passe-droit. Et c'est cette impartialité divine qui structure notre être dans la foi et nos relations. Certes, nous marchons sur nos chemins d'existence avec tout ce bagage de notre identité mondaine qui parfois nous rassure et qui parfois empêche ou limite les relations avec les autres et avec Dieu. Cependant, ce bagage n'est pas ce qui nous oriente de manière fondamentale et ultime. Il ne recèle pas ce bagage, le sens ni la valeur de notre existence. Et il se peut même qu'en répondant à l'appel de Dieu, en suivant le Christ, nous pouvons aussi dire, nous laissions en route quelques éléments de ce bagage, et cela sans peur et sans risque. Puisque notre identité profonde et véritable ne dépend pas d'eux. Le deuxième débordement que le récit provoque et met en scène est celui des traditions et des rites. Jésus a accompli avec ses parents tout ce que prescrit la religion, comme cela doit être fait. Mais il est resté à Jérusalem, pour autre chose, qui ne fait pas partie des rites. Il est resté pour poser des questions, écouter des réponses, pour écouter des questions et poser des réponses, pour un dialogue, pour un échange avec les maîtres de la loi. Parce que les rites et les traditions ne suffisent pas. Il faut leur donner du sens pour garder leur valeur. Et il se peut qu'il faille les dépasser lorsque le sens est tombé. De même qu'il est nécessaire d'expliquer les croyances et de ne pas les confondre avec la foi, pour que la foi ne s'échoue pas et ne devienne pas complètement vague, complètement floue et sans conséquences. Les traditions et les rites ne sont pas à perpétuer de génération en génération, mais à revivifier par chaque génération. C'est un peu comme la mémoire. Et si ce n'est plus possible de leur trouver un sens, de les revivifier, eh bien il vaut mieux les déposer. Et au temple, Jésus parle de loi, et donc de sens avec les maîtres de la loi. Et puis les rites et les traditions ne suffisent pas non plus à construire une identité qui serait bien trop fragile parce qu'elle serait toujours à défendre en la figeant et en la crispant sur ses traditions et sur ses rites. Interroger, répondre, écouter, parler, dialoguer nous constitue et nous permet de cheminer bien plus sûrement que la seule obéissance à des traditions et le seul respect des rites. Luc prend soin de préciser à plusieurs reprises que les parents de Jésus agissent selon la coutume, comme d'habitude. Mais Jésus, lui, interroge, répond, cherche, et c'est une bifurcation par rapport au chemin suivi par ses parents. Il s'intéresse aux affaires de son père, ce pourquoi il est dans le temple à parler de loi, c'est-à-dire de volonté de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'est un être humain, c'est-à-dire de confiance, d'origine, d'orientation, d'existence. Mais s'occuper des affaires du Père n'est pas réservé à Jésus. C'est bien aussi notre affaire. À la lumière de l'Évangile, la bonne nouvelle de la reconnaissance inconditionnelle, et c'est bien autre chose que l'obéissance à des règles et des prescriptions. Cette affaire-là, c'est l'affaire de chacun et chacune, articulant la singularité de l'être au dialogue, en question-réponse avec d'autres, d'autres avec lesquels et grâce auxquels nous devenons capables de parler de ce qui nous fait vivre, de notre origine d'être, notre Père, en langage du Nouveau Testament, une manière de parler de la transcendance. Cette transcendance, Dieu, qui est bien au-delà des représentations qu'on se fait de lui, au-delà des institutions qui tâchent d'organiser son culte en rassemblant ceux qui sont en quête de foi et de vie, et bien au-delà des rites et des traditions qui transmettent des convictions et des croyances à son sujet. Le dialogue, la quête de compréhension et de sens, l'interrogation, l'écoute des réponses des autres, participent de la libération des personnes par rapport à la réclusion dans des rites, des traditions et des croyances qui parfois, hélas, prennent la place de celui qu'elles devraient désigner ou font écran pour éviter de se confronter et d'être présent dans la réalité. Jésus au temple à 12 ans, c'est une manière pour Luc de signifier déjà l'œuvre de libération des sujets, des personnes, qui sera l'œuvre de Jésus adulte dès le chapitre 4. Ça passe très vite. Enfin, le troisième débordement est celui des Écritures. Ce sera plus rapide puisque nous avons déjà vu qu'un texte biblique est débordé par ses interprétations et que dialoguer, écouter, répondre, chercher permet d'être relié par la reconnaissance à la transcendance et aux autres, et ainsi de déborder de soi-même, d'être transporté plus loin que soi-même. Même si Jésus, dans le récit, finit par suivre ses parents et leur être soumis, Luc a donné un indice important. Son évangile, les évangiles, tous les textes bibliques, sont écrits pour faire parler, pour se parler les uns aux autres. Car c'est en cela qu'un texte biblique devient présent, dans une lecture partagée, avec des questions, des réponses, de la réflexion, pour une actualisation, une appropriation qui le vivifie autant qu'elle permet au texte d'être vivifiant. Et l'intelligence de Jésus qui stupéfie ce qu'il écoute, ce n'est pas du savoir. C'est l'intelligence au sens de la capacité de faire des relations. Et une capacité de relation au travers des Écritures. La capacité de se relier avec la transcendance, avec autrui. Et en vérité, se relier à la transcendance et se relier à autrui, ça va toujours ensemble. Ça n'est jamais séparé. Dans cette mise en scène de Jésus assis au milieu des maîtres de la loi et parlant avec eux de la loi, Luc nous fait comprendre que les Écritures ne nous appartiennent pas, elles viennent d'avant nous, elles viennent d'autres que nous, et elles nous envoient, elles nous renvoient à la fois à Dieu, à autrui et à nous-mêmes. Elles sont ainsi offertes comme mises en mouvement, comme dynamique dans laquelle nous pouvons entrer, une dynamique de lecture, une dynamique de dialogue, une dynamique d'identité et donc une dynamique d'existence. Il y a là une ressource merveilleuse, transmise de génération en génération, comme un héritage qui ne le demeure que d'être partagé. Une ressource pour comprendre ce que Jésus apprend au temple à 12 ans. Et à 12 ans, au temple, Jésus apprend l'humanité, ce que c'est qu'être humain devant Dieu et par lui. Il s'en imprègne pour l'être. Et lui, le Christ de Dieu, sera humain en plénitude. Et nous, nous pouvons aller et devenir à sa suite, et à n'importe quel âge, quelle que soit notre identité dans ce monde. Il y a 4 jours à Noël, nous n'avons pas célébré l'anniversaire de Jésus, mais nous avons célébré qu'en cette naissance d'il y a bien longtemps, c'est le Christ qui vient naître en nous. Alors qu'ils grandissent. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre et pour vous associer, si vous le voulez, à la confession de foi. Éternel, nous croyons que le monde est animé par ton esprit d'amour. Il nous fait naître, il nous apprend à aimer, il nous permet de nous émerveiller. Il nous donne de créer à notre tour. Nous croyons en toi qui nous libère sans cesse de nos aveuglements et de nos inerties pour que nous devenions plus humains. Nous croyons que ton esprit suscite toujours et partout cet élan et nous travaille sans cesse. Nous croyons qu'inlassablement tu nous proposes une vie qui abolit la mort et qu'il nous faut en vivre de suite pour en vivre à jamais. Nous croyons en toi qui es source de toutes choses et qui appelle le monde à tendre vers ton royaume. Par toi, nous prenons conscience de la dignité humaine et nous nous ouvrons à la reconnaissance, à la fidélité et à l'accueil. Ainsi, en toi, nous ressuscitons à la vraie vie. Amen. Voici le temps des annonces. Puisque c'est dimanche, c'est le jour de la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Une collecte qui aura également lieu dimanche prochain. Donc vous pouvez apporter ce qui est indiqué sur les affiches dans l'entrée du temple ou d'autres produits. Non périssable et pas en vrac. Voilà. Dans la semaine, il y aura jeudi la pause spirituelle à 12h30 dans le temple jusqu'à 13h30. Comme c'est les vacances et parce que également je serai absente la semaine prochaine, il n'y aura pas d'autres activités au foyer de l'âme. Et dimanche, mais dimanche, il y aura bien sûr le culte le 5 janvier, ce sera l'année prochaine. Et ce sera un culte à deux voix, puisque c'est Mathias Ben Abdallah qui prépare et qui dira la prédication, et Françoise Ikel qui prépare et dira la liturgie, puisque l'un et l'autre ont été appelés à ce service, comme l'ont été appelés Adrien, Hélène pour la prédication, ou Isabelle déjà précédemment pour la liturgie, et nous leur sommes reconnaissants d'assurer ce service. Ce sont les derniers jours, vraiment les derniers jours avant le 31 pour remettre votre demande d'inscription comme membre de l'association cultuelle, si vous ne l'avez pas encore fait. Les feuilles de demande sont sur la table au fond du temple. Et puis je voulais vous donner aussi quelques nouvelles de l'entraide pour vous dire qu'un don pour Mayotte a été envoyé par l'entraide du foyer de l'âme via le service Solidarité protestante de la Fondation du protestantisme. Et que ce don, cette année, s'ajoute à 3 dons précédemment déjà versés. Un pour l'hôpital anglican de Gaza, un hôpital qui est géré en fait par l'église baptiste, qui a repris en juillet dernier son fonctionnement après avoir été sévèrement bombardé puis fermé en juillet 2023. Il a repris son service en octobre 2024, un service limité, mais en tout cas avec les dons de différentes œuvres et mouvements, et cela par l'intermédiaire de l'association chrétienne en Orient, dont un précédent exemplaire du foyer de l'âme vous avait donné connaissance. Il y a eu également une aide versée au synode arabe qui regroupe des églises protestantes au Liban pour l'aide aux réfugiés libanais après les récents bombardements et évacuations de populations. Et puis il y avait eu précédemment un don versé à l'église protestante évangélique espagnole suite aux inondations de la région de Valence. Donc ça a été les 4 dons exceptionnels versés par l'entraide dans cette année 2024. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Alors, s'il n'y en a pas, nous partageons une œuvre de solidarité qui est aussi un geste de confiance et de louange. C'est le moment de l'offrande. Votre offrande grâce à laquelle le foyer de l'âme peut assurer sa mission. Pendant cette offrande, je vous invite à chanter au cantique 266 « Ô Jésus, mon frère » et nous nous levons pour chanter.
Oh,
asseyez-vous. Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, notre Père, tant d'hommes, de femmes et d'enfants, de frères et de sœurs, sont enfermés dans des identités sociales, économiques, religieuses, culturelles, repliés de gré ou de force derrière des barrières de langue, de tradition, de couleur de peau, de manière de vivre. Et leurs vies sont déjà comme tracées à l'avance, et ce n'est pas juste. Aide-nous à refuser ces déterminismes, à parler et agir en faveur de la dignité de tous et toutes, inconditionnellement. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour les évangélistes qui ont écrit leur témoignage de foi, pour les pères de l'Église qui ont édifié celle-ci, pour les réformateurs qui l'ont transformée. Préserve-nous de l'esprit de conservation, de répétition, de repliement sur les traditions. Et donne-nous un esprit de questionnement, de quête, de dialogue, de rénovation. Aide-nous à ne pas considérer les Écritures comme notre possession ou l'histoire comme un poids immobilisant, écrasant. Mais apprends-nous à partager généreusement et dans la joie, ce qui est richesse et ressource d'humanité et d'existence. Au terme de cette année, que ton esprit souffle en nous le courage et la confiance dont nous avons besoin pour entrer dans l'année suivante et là où nous sommes, faire œuvre de justice et de paix. Qu'il y a tant de violence et de haine dans ce monde. Nous ouvrons notre prière à celles et ceux qui sont en détresse, en souffrance, emportés, engloutis au désespoir. Glissons notre prière dans celle que Jésus le Christ nous a donnée, en disant ensemble à voix haute ou dans le silence du cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Notre cheminement est toujours porté par une promesse, la rencontre avec Dieu qui donne sens à nos vies. Et cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu. Elle se fait dans les visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère, une sœur, dans tous les mots de la Bible qui disent l'amour de Dieu pour chaque être humain. Allons, remettons-nous en route sur les chemins de nos vies. Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que son amour rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Que son règne vienne en vous et par vous. Amen.